ფრანგული ენის ტესტის მოსმენის დავალება. ფრანგული ენის ტესტის მოსმენის დავალება.
Bienvenue à l'épreuve de compréhension orale du test de professeur de français. Vous avez deux exercices. Pour chaque exercice, vous avez deux écoutes. Vous aurez du temps avant et entre les écoutes. Bonne chance.
Exercice 1. Compréhension orale. Vous allez écouter une interview avec Laetitia Casta. Complétez les affirmations suivantes par les éléments qui manquent. 1. Ou deux éléments par affirmation. Vous écouterez l'enregistrement deux fois. Vous avez maintenant 45 secondes pour lire les affirmations. D'elle, nous avons vu tant d'images que nous voulions un regard singulier. L'actrice, qui personnifie aussi l'extase pour le parfum éponyme de Nina Ricci, vient de réaliser son premier court-métrage, En moi. Pourquoi ? À cette occasion, notre rédaction a décidé de lui poser quelques questions. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Dans votre court-métrage, qui a été présenté à Cannes, on suit un réalisateur anxieux et dépressif, à la recherche d'une actrice qui pourra, enfin, dire quelque chose de juste.
Oui, c'est exactement ça. Dans Paris, Texas de Wim Wenders, une femme a pris la fuite, en quête de quelque chose, d'un endroit où poser ses valises. Voilà, tout est là. J'ai toujours été dans une forme de recherche d'absolu, ce qui est contradictoire avec mon métier, où tout est bien enfermé. Pourtant, j'essaye de trouver une forme de liberté à l'intérieur de ça, de justesse. C'est un peu fou. Disons que je suis très contradictoire.
Vous dites que tout est enfermé. Il se trouve où, l'enfermement ?
Tout doit être défini. Les gens dans ce métier fonctionnent avec des références de ce que doit être la femme et à quoi elle doit ressembler. Et en même temps, je me suis toujours rebellée contre ça. C'est ce dont je parle dans mon film.
Racontez-moi votre rencontre avec le réalisateur Pascal Thomas.
Je jouais Ondine au théâtre. Il est venu me voir. Il a sorti de sa poche le scénario du grand appartement. C'était son histoire, il l'a transfigurée pour une femme. Et j'ai bien aimé ce personnage féminin qui se débat, qui essaye de faire plaisir à tout le monde pour que la baraque tienne le coup. Moi, je découvrais le cinéma. J'étais toute débutante. Quoi qu'il arrive, il y a toujours eu une sorte de décalage. Je n'ai jamais vraiment su où m'asseoir. Vous savez, ce jeu-là avec les chaises. Je suis toujours celle qui reste debout.
L'avantage du mannequinat, c'est que vous avez juste à écouter où on vous demande de vous asseoir.
Je ne suis pas d'accord. Depuis l'âge de 14 ans, je suis mannequin. J'ai appris comment placer mon visage sous un certain degré de lumière. Je peux vous parler pendant des heures de l'endroit où on doit placer l'objectif. Le corps devient un outil qui emmène à une pensée très intéressante, presque poétique. Lorsque j'arrive dans un studio pour faire des photos, j'ai le trac. Je ne sais jamais si je serai à la hauteur de ce qu'on attend de moi ou de ce que le photographe a imaginé que je devais être. Ce métier m'a appris à jouer des personnages. Tout a commencé là. Être actrice de cinéma, c'est bien plus simple.
Ah oui.
Oui, parce que tout est écrit. On vous emmène, on vous pose, on vous raconte une histoire, on vous dit « ça ressemble à ça » ou « je voudrais ça ». C'est très facile. Modèle, tu dois tout imaginer. On a cette idée des mannequins avec trois feuilles de salade dans la tête, alors que c'est un métier très puissant. C'est s'inventer un personnage et hisser les choses vers le haut. Pour avoir un regard rempli, il faut avoir une pensée.
Vous préparez-vous physiquement différemment pour vos rôles au cinéma ou en tant que modèle ?
Il n'y a aucune différence. Une fois que j'ai dit oui, je m'engage. Je ne pense qu'à ça et je me donne entièrement.
Puisque vous évoquiez le mannequinat, j'aurais aimé quelques mots sur Yves Saint-Laurent qui faisait partie de la grande famille des intranquilles et des nerveux.
Heureusement que je l'ai rencontré, celui-là. Sinon, je n'en serais pas là aujourd'hui. C'était ce qu'on appelle un être raffiné, comme il n'y en aura plus jamais. Une sorte d'homme noyé qui arrivait à tendre une main dans la mer pour tenir la vôtre, parce qu'il sentait que vous étiez aussi noyé que lui. Yves Saint-Laurent était un mélange de timidité et de pudeur. Un homme qui vous sortait les 3 ou 4 phrases qui vont faire toute votre vie. Il me manque terriblement.
Vous pensez souvent à lui ?
Je pense à sa poésie, à son regard enfantin sur le monde, à sa folie, à sa nervosité. Avec lui, je me sentais moins seule.
Et Brigitte Bardot ?
Bardot te sort des phrases avec une spontanéité désarmante. C'est bien. J'ai pu faire le tri. C'est comme si elle me livrait des secrets. En fait, Bardot a tout brûlé. Elle a été comme une enfant devant une boulangerie et elle ne s'est rien refusé. Ce qui est assez fort pour l'époque. Aujourd'hui, c'est la norme. En revanche, ce qui était paradoxal chez elle, c'est que lorsqu'on est marié, on est marié. On ne divorce pas.
Chez vous aussi, c'est comme ça ?
Pardon ?
Vous ne vous êtes jamais marié pour cela, parce que vous considérez l'amour comme quelque chose de très sérieux ?
Oui. L'amour, je le considère comme quelque chose d'essentiel.
On a parfois l'impression qu'on pourrait vous prendre en photo des milliers de fois, vous filmer pendant des heures. Il y aurait toujours quelque chose d'inexplicable chez vous, quelque chose qui ne se livre pas complètement.
Oui, et pourtant je donne tout, vous pouvez me croire. Simplement, on a tendance à vouloir tout banaliser et mettre des mots sur chaque chose. Moi, j'aime bien que certaines choses restent suspendues. On n'est pas obligé de trouver une définition à chaque démarche. La photo ne peut pas tout décrire. Il faut laisser un peu de place à l'indescriptible, à la poésie, à la folie, à la lenteur aussi.
Qu'est-ce que votre mère vous a appris de la beauté et que souhaitez-vous transmettre à votre fille ?
Ma mère m'a transmis plus que la beauté. Elle m'a transmis des expériences de vie.
Trouvez-vous que les critères de beauté ont changé depuis que vous avez commencé dans le métier ?
Oui. Aujourd'hui, ce ne sont plus vraiment des critères de beauté. Comme tout est retouché, nous ne sommes que sur du superficiel.
Merci Laetitia.
De rien.
D'elle, nous avons vu tant d'images que nous voulions un regard singulier. L'actrice, qui personnifie aussi l'extase pour le parfum éponyme de Nina Ricci, vient de réaliser son premier court-métrage, En moi. Pourquoi ? À cette occasion, notre rédaction a décidé de lui poser quelques questions. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Dans votre court-métrage, qui a été présenté à Cannes, on suit un réalisateur anxieux et dépressif à la recherche d'une actrice qui pourra, enfin, dire quelque chose de juste.
Oui, c'est exactement ça. Dans Paris, Texas de Wim Wenders, une femme a pris la fuite, en quête de quelque chose, d'un endroit où poser ses valises. Voilà, tout est là. J'ai toujours été dans une forme de recherche d'absolu, ce qui est contradictoire avec mon métier, où tout est bien enfermé. Pourtant, j'essaye de trouver une forme de liberté à l'intérieur de ça, de justesse. C'est un peu fou. Disons que je suis très contradictoire.
Vous dites que tout est enfermé. Il se trouve où, l'enfermement ?
Tout doit être défini. Les gens dans ce métier fonctionnent avec des références de ce que doit être la femme et à quoi elle doit ressembler. Et en même temps, je me suis toujours rebellée contre ça. C'est ce dont je parle dans mon film.
Racontez-moi votre rencontre avec le réalisateur Pascal Thomas.
Je jouais Ondine au théâtre. Il est venu me voir. Il a sorti de sa poche le scénario du grand appartement. C'était son histoire, il l'a transfigurée pour une femme. Et j'ai bien aimé ce personnage féminin qui se débat, qui essaye de faire plaisir à tout le monde pour que la baraque tienne le coup. Moi, je découvrais le cinéma. J'étais toute débutante. Quoi qu'il arrive, il y a toujours eu une sorte de décalage. Je n'ai jamais vraiment su où m'asseoir. Vous savez, ce jeu-là avec les chaises. Je suis toujours celle qui reste debout.
L'avantage du mannequinat, c'est que vous avez juste à écouter où on vous demande de vous asseoir.
Je ne suis pas d'accord. Depuis l'âge de 14 ans, je suis mannequin. J'ai appris comment placer mon visage sous un certain degré de lumière. Je peux vous parler pendant des heures de l'endroit où on doit placer l'objectif. Le corps devient un outil qui emmène à une pensée très intéressante, presque poétique. Lorsque j'arrive dans un studio pour faire des photos, j'ai le trac. Je ne sais jamais si je serai à la hauteur de ce qu'on attend de moi, ou de ce que le photographe a imaginé que je devais être. Ce métier m'a appris à jouer des personnages. Tout a commencé là. Être actrice de cinéma, c'est bien plus simple.
Ah oui ?
Oui, parce que tout est écrit. On vous emmène, on vous pose, on vous raconte une histoire, on vous dit « ça ressemble à ça » ou « je voudrais ça ». C'est très facile. Modèle, tu dois tout imaginer. On a cette idée des mannequins avec trois feuilles de salade dans la tête, alors que c'est un métier très puissant. C'est s'inventer un personnage et hisser les choses vers le haut. Pour avoir un regard rempli, il faut avoir une pensée.
Vous préparez-vous physiquement différemment pour vos rôles au cinéma ou en tant que modèle?
Il n'y a aucune différence. Une fois que j'ai dit oui, je m'engage. Je ne pense qu'à ça et je me donne entièrement.
Puisque vous évoquiez le mannequinat, j'aurais aimé quelques mots sur Yves Saint-Laurent qui faisait partie de la grande famille des intranquilles et des nerveux.
Heureusement que je l'ai rencontré, celui-là. Sinon, je n'en serais pas là aujourd'hui. C'était ce qu'on appelle un être raffiné, comme il n'y en aura plus jamais. Une sorte d'homme noyé qui arrivait à tendre une main dans la mer pour tenir la vôtre, parce qu'il sentait que vous étiez aussi noyé que lui. Yves Saint-Laurent était un mélange de timidité et de pudeur. Un homme qui vous sortait les trois ou quatre phrases qui vont faire toute votre vie. Il me manque terriblement.
Vous pensez souvent à lui ?
Je pense à sa poésie, à son regard enfantin sur le monde, à sa folie, à sa nervosité. Avec lui, je me sentais moins seule.
Et Brigitte Bardot ?
Bardot te sort des phrases avec une spontanéité désarmante. C'est bien. J'ai pu faire le tri. C'est comme si elle me livrait des secrets. En fait, Bardot a tout brûlé. Elle a été comme une enfant devant une boulangerie et elle ne s'est rien refusé. Ce qui est assez fort pour l'époque. Aujourd'hui, c'est la norme. En revanche, ce qui était paradoxal chez elle, c'est que lorsqu'on est marié, on est marié. On ne divorce pas.
Chez vous aussi, c'est comme ça ?
Pardon ?
Vous ne vous êtes jamais marié pour cela, parce que vous considérez l'amour comme quelque chose de très sérieux ?
Oui. L'amour, je le considère comme quelque chose d'essentiel.
On a parfois l'impression qu'on pourrait vous prendre en photo des milliers de fois, vous filmer pendant des heures. Il y aurait toujours quelque chose d'inexplicable chez vous, quelque chose qui ne se livre pas complètement.
Oui, et pourtant je donne tout, vous pouvez me croire. Simplement, on a tendance à vouloir tout banaliser et mettre des mots sur chaque chose. Moi, j'aime bien que certaines choses restent suspendues. On n'est pas obligé de trouver une définition à chaque démarche. La photo ne peut pas tout décrire. Il faut laisser un peu de place à l'indescriptible, à la poésie, à la folie. À la lenteur aussi.
Qu'est-ce que votre mère vous a appris de la beauté et que souhaitez-vous transmettre à votre fille ?
Ma mère m'a transmis plus que la beauté. Elle m'a transmis des expériences de vie.
Trouvez-vous que les critères de beauté ont changé depuis que vous avez commencé dans le métier ?
Oui. Aujourd'hui, ce ne sont plus vraiment des critères de beauté. Comme tout est retouché, nous ne sommes que sur du superficiel.
Merci Laetitia.
De rien.
Exercice 2. Compréhension orale. Vous allez écouter le témoignage de 4 personnes concernant la réforme de l'orthographe française. Associez les 4 témoignages aux affirmations correspondantes. Attention, il y a 2 affirmations de trop. Vous écouterez l'enregistrement 2 fois. Vous avez maintenant 30 secondes pour lire les affirmations. Première personne. Le vrai problème de la réforme de l'orthographe française, c'est qu'il faudrait que ce soit une simplification et non une modification qui introduit de nouvelles règles très discutables. Ce n'est pas en déplaçant les trémas, en inversant certains accents ou en rajoutant des traits d'union que l'on va faciliter le bon usage de l'orthographe. Par contre, il y a un bon nombre d'anomalies ou d'archaïsmes que l'on pourrait facilement supprimer. À force de refuser de faire évoluer le français ou de vouloir imposer de nouvelles règles, on en fait un objet réservé à une minorité, alors que la langue utilisée sur Internet ou dans les cités est très éloignée des règles académiques, mais elle est pourtant bien réelle. Pour défendre notre langue, il faut la moderniser. Deuxième personne.
Je suis contre la réforme de l'orthographe. Dans le cadre de mon travail, je reçois des courriers électroniques tous les jours truffés de fautes. C'est affligeant. Parfois, je suis obligée de lire à haute voix le texte pour en comprendre le sens. J'admets que l'on fasse des fautes. Personne n'est parfait. Mais la langue française est splendide et pleine de subtilités. Ne la réduisons pas en miettes. Un conseil pour ceux qui souhaitent travailler sur leur orthographe et leur grammaire. En plus d'exercices basiques, il faut lire beaucoup. Cela permet d'améliorer l'orthographe et l'expression et développe l'imaginaire.
Troisième personne. Je me permets de réagir car je suis totalement contre la réforme de l'orthographe. Pourquoi ? Parce qu'elle fait baisser le niveau des enfants. On veut supprimer, par exemple, l'accent circonflexe. Alors que l'accent circonflexe remplace le S pour certains mots. Forêt, forestier. Le PH va même être remplacé par le F. C'est inadmissible. Le français n'est pas facile, certes, mais c'est une langue d'origine latine qui a une histoire très riche. Je pense qu'il faut renforcer l'étude du français plutôt que de le réformer. Les professeurs des écoles ne sont pas là pour éduquer, mais pour instruire. Quatrième personne.
Je suis expatriée à San Francisco depuis presque 5 ans, où j'ai pu faire l'expérience de l'école américaine pendant 2 ans pour mes 3 enfants en primaire et collège, avant de les remettre au lycée français en circuit bilingue. Mon dernier fils Thomas apprend à lire et à écrire en anglais à l'école et en français avec le CNED le soir. L'anglais est donc une langue beaucoup plus simple à maîtriser que le français, avec peu d'accords, pas de genre, pas de conjugaison se réduisant aux verbes irréguliers. Alors que Thomas a 10 mots d'anglais à maîtriser par semaine qu'il doit apprendre à remettre dans son contexte, je me bats tous les soirs avec les exceptions illogiques, les conjugaisons impossibles en français.
Première personne. Le vrai problème de la réforme de l'orthographe française, c'est qu'il faudrait que ce soit une simplification et non une modification qui introduit de nouvelles règles très discutables. Ce n'est pas en déplaçant les trémas, en inversant certains accents ou en rajoutant des traits d'union que l'on va faciliter le bon usage de l'orthographe. Par contre, il y a un bon nombre d'anomalies ou d'archaïsmes que l'on pourrait facilement supprimer. À force de refuser de faire évoluer le français ou de vouloir imposer de nouvelles règles, on en fait un objet réservé à une minorité, alors que la langue utilisée sur Internet ou dans les cités est très éloignée des règles académiques, mais elle est pourtant bien réelle. Pour défendre notre langue, il faut la moderniser. Deuxième personne.
Je suis contre la réforme de l'orthographe. Dans le cadre de mon travail, je reçois des courriers électroniques tous les jours truffés de fautes. C'est affligeant. Parfois, je suis obligée de lire à haute voix le texte pour en comprendre le sens. J'admets que l'on fasse des fautes. Personne n'est parfait. Mais la langue française est splendide et pleine de subtilités. Ne la réduisons pas en miettes. Un conseil pour ceux qui souhaitent travailler sur leur orthographe et leur grammaire. En plus d'exercices basiques, il faut lire beaucoup. Cela permet d'améliorer l'orthographe et l'expression et développe l'imaginaire.
Troisième personne. Je me permets de réagir car je suis totalement contre la réforme de l'orthographe. Pourquoi ? Parce qu'elle fait baisser le niveau des enfants. On veut supprimer, par exemple, l'accent circonflexe. Alors que l'accent circonflexe remplace le S pour certains mots. Forêt, forestier. Le PH va même être remplacé par le F. C'est inadmissible. Le français n'est pas facile, certes, mais c'est une langue d'origine latine qui a une histoire très riche. Je pense qu'il faut renforcer l'étude du français plutôt que de le réformer. Les professeurs des écoles ne sont pas là pour éduquer, mais pour instruire. Quatrième personne.
Je suis expatriée à San Francisco depuis presque 5 ans, où j'ai pu faire l'expérience de l'école américaine pendant 2 ans pour mes 3 enfants en primaire et collège, avant de les remettre au lycée français en circuit bilingue. Mon dernier fils Thomas apprend à lire et à écrire en anglais à l'école, et en français avec le CNED le soir. L'anglais est donc une langue beaucoup plus simple à maîtriser que le français, avec peu d'accords, pas de genre, pas de conjugaison se réduisant aux verbes irréguliers. Alors que Thomas a 10 mots d'anglais à maîtriser par semaine qu'il doit apprendre à remettre dans son contexte, je me bats tous les soirs avec les exceptions illogiques, les conjugaisons impossibles en français.
Fin de l'épreuve de compréhension orale. Merci.
Mosmeni stavaleba dasrulebulia.